Salut Titouan, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. Donc, tu as été assistant réalisateur sur le film Sirocco et le Royaume des Courants d'Air. Donc, on a déjà eu d'autres vidéos avant avec d'autres membres de l'équipe à la réalisation et à la direction de production. Donc, on va parler surtout de ça, mais on va aussi faire un point sur ton parcours. Tu as réalisé des films, des courts-métrages. Donc, je pense qu'on va faire un sorte de gros bilan de tout ce que ça implique de faire ce que tu as fait jusqu'ici dans ton travail, quoi. Donc peut-être commencer par une petite présentation de qui tu es et puis commencer sur ton parcours.
Merci de m'accueillir déjà. Donc je m'appelle Titouan Bordeaux. J'ai fait il y a longtemps ce qu'on appelait à l'époque le DMA cinéma d'animation, qu'on appelle aujourd'hui le DMA ou DM Made, à Marseille. Puis après ça, j'ai fait la Poudrière. Et voilà, et depuis que j'ai fini la Poudrière, donc j'ai fini en 2013, depuis que j'ai fini la Poudrière, j'alterne entre bosser sur des prods, souvent en tant qu'animateur, ou là dernièrement en tant qu'assistant réal, et profiter de mon temps de chômage pour réaliser mes films.
Oui.
Voilà, en gros.
Et justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce parcours à Marie Curie? C'est ça le nom de la formation? Parce
Ouais.
que j'en ai entendu parler un petit peu. Donc maintenant, ça commence peut-être à. Enfin, ça a dû changer depuis, mais comment ça s'est passé? De ce que j'ai compris, c'est une des formations accessibles en France, etc. Où c'est pas. Je crois que c'est pas
Ouais.
public, Marie Curie?
Si, ça fait partie.
Ouais.
C'est inéquivalent. Enfin, alors, du coup, peut-être que je me trompe sur les histoires d'équivalent et tout, parce que moi, j'y étais il y a plus de 10 ans.
Oui.
Et puis, avec le changement en DMAD, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais c'est considéré comme c'est des formations publiques, quoi. C'est équivalence. Moi, à l'époque, c'était équivalence BTS, quoi. Et je pense qu'en effet, ça a dû beaucoup changer, parce que moi, j'étais dans la toute première promo. Ça venait tout juste de se monter. Donc, il y avait un côté assez expérimental, mais qui était très intéressant aussi parce que les profs étaient principalement des profs d'art appliqué. Donc, ils découvraient l'animation. Bon, ils étaient un peu plus renseignés que nous en arrivant. Mais voilà, en fait, ils apprenaient en même temps que nous, on apprenait. Et donc, ça avait créé une dynamique de groupe classe qui était quand même assez chouette. Et voilà. Et donc, pendant, j'ai fait ma première année. En première année, c'est beaucoup d'exercices et tout ça. Apprentissage, un peu mettre les premiers pas dans l'animation. Fin de première année, il y avait un stage où j'ai fait mon stage chez Je suis bien content à Paris. À l'époque, sur un teaser de long métrage de Avril et le monde truqué. Il y a longtemps. Et c'était hyper intéressant parce que je savais que la deuxième année, il y avait un film de fin d'études à faire. Et je n'avais pas toutes les clés pour savoir comment faire un film à ce moment-là. Donc, je m'étais dit, vraiment, l'objectif de mon stage, c'est de poser toutes les questions, enfin, en fait, d'éclaircir toutes les zones d'ombre qui me restaient sur la fabrication d'un film. Et donc j'y suis pas mal allé dans cet objectif-là. Et ça a bien marché. J'ai réussi à revenir, en tout cas, avec une idée de pipe à peu près claire dans ma tête. Et en deuxième année, j'ai pu faire mon film de fin d'études, qui est disponible sur Vimeo. Je commence à avoir pas mal de mini, mais que j'aime bien voir de temps en temps quand même, qui s'appelle Rendez-vous. Et voilà, une histoire qui se passe sur un bateau pirate. Et film qui avait plutôt bien marché, parce qu'il avait été sélectionné à Annecy, notamment. Et donc, du coup, ça avait lancé un peu le parcours, enfin, en fait, ça m'avait lancé dans l'envie de refaire d'autres films aussi, quoi.
Et donc après, tu as été à l'école La Poudrière. Je pense que tu es la première personne dans les vidéos qui a fait ça, si je ne me trompe pas. Donc est-ce qu'on peut peut-être en parler aussi un petit peu? C'est plus focalisé
Ouais.
sur le côté réalisation. Et je me demande un peu
Ouais,
comment
c'est
ça marche
ça.
là-bas en fait.
Alors, pour le coup, pareil, j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est semi-privé. En tout cas, ça reste la moins chère des écoles d'anime, je crois, pour l'instant, parce que c'est 2000 euros pour 2 ans. Pareil, j'espère que je dis pas de
Ouais,
bêtises.
ça grimpe un peu très vite dans les autres
Mais
écoles, en tout cas. Donc,
oh,
même si elle a augmenté, elle
ouais,
sera
c'est
pas au
ça.
niveau des autres écoles, à mon avis, qui sont à 10 000
Oui,
le plus
c'est ça.
l'année.
Et donc, ouais, c'est une école qui forme plus à la réalisation de films d'animation. Donc, ça veut dire que, en général, les gens qui arrivent ont déjà fait une autre école d'anime ou ont déjà, voire même bossé un peu dans le secteur. Ce qui fait qu'on n'a pas de cours d'animation, en fait. On ne nous apprend pas les techniques d'anime, mais on nous apprend l'écriture de scénario, On nous apprend à faire de la mise en scène, mais aussi à savoir écrire des dossiers de subvention, savoir pitcher des projets à l'oral, gérer des budgets, gérer un planning, gérer une équipe, gérer des gens avec qui on va bosser pour le son. Du coup,
Ouais.
c'est pas mal, c'est plein de, on fait plein de d'exercices un peu tout le temps, soit de mise en scène, soit de montage son nous-mêmes, ce qu'on nous apprend quand même à faire du montage son, en nous disant qu'il y a peu de chances qu'on le fasse plus tard. Mais au moins on sait ce qui est possible de faire avec Pro Tools, c'est voilà, on sait comment
Ouais,
ça
rien que pour des
fonctionne,
projets
quoi.
perso, etc. C'est toujours, surtout quand on veut réaliser derrière, d'avoir la,
Ouais.
au moins une petite connaissance de tout, c'est le plus important, j'imagine, pour savoir, gérer,
À
quoi.
fond, ouais. Ouais. Et l'autre truc qui est hyper cool avec la poudrière, c'est que y a un responsable pédagogique, mais il n'y a pas de professeur, c'est que des intervenants professionnels. Ce qui fait que toutes les semaines, c'est des nouvelles personnes qui viennent.
Oui.
Qui peuvent être soit des scénaristes, soit des réalisateurs ou réalisatrices, soit des, je sais pas, il y a toutes sortes de storyboarders, des, enfin voilà, il y a toutes sortes de profils qui viennent, et notamment en deuxième année, donc, attends, j'essaie de reprendre dans l'ordre. Mes premières années, il y a principalement des exercices, toutes sortes d'exercices, il y a un film de 1 minute à faire aussi qui donne une première expérience de réalisation sur un format court, mais au moins déjà on revoit un peu toutes les étapes. Fin de première année, pareil, hein, c'est des infos qui datent un peu, mais je pense qu'on ne doit pas être trop dans la vérité quand même. Fin de première année, c'est un trimestre, dernier trimestre, c'est sur l'écriture de séries et d'unitaires télé.
OK.
Où, du coup, on a 3 mois, on est par groupe de trois, où on part, nous, on était parti d'un livre jeunesse en se disant, en essayant de faire un travail d'adaptation. Donc, se dire comment est-ce que ça peut être décliné en série? Comment est-ce qu'on peut en trouver un concept de série qui fait on pourrait en avoir des idées d'épisodes à l'infini? Comment est-ce qu'on écrit des personnages? Comment est-ce qu'on trouve un équilibre, voilà, là-dessus? Travailler les formats, travailler la cible et tout. Et sur la partie unitaire aussi, où on nous fait pareil en groupe de trois, écrire un scénario d'un film. Normalement, un unitaire, c'est 26 minutes, mais là, on nous fait faire 13 minutes. Déjà la moitié, mais donc ça donne déjà une vision d'écriture d'un truc d'une plus grande ampleur, quoi.
Et derrière, est-ce que tu peux
Ça, c'est la.
utiliser ça pour un projet, par exemple, un truc que tu as écrit dans l'école, derrière, tu peux en faire ce que tu veux?
Il y a des projets qui se sont faits. Parce que, ah oui, c'est en fin de première année, avec ces unitaires et tout ça, ils invitent un panel de professionnels, soit qui sont venus pendant l'année, soit de professionnels extérieurs. Donc souvent c'est du très beau monde qui vient et c'est en mode mini forum cartoon
Oui.
avec une salle qui est remplie de professionnels et les étudiants de la poudrière qui pitchent les projets qu'ils ont développés pendant les derniers mois. Puis le soir il y a la projection avec les films de fin d'études, enfin tous les films qui ont été faits pendant l'année. C'est assez intéressant. En fait c'est là où je voulais en venir, c'est que cette école, elle nous fait aussi rencontrer énormément de monde, et notamment les gens des chaînes de télé. C'est-à-dire qu'en sortant, on a déjà eu un peu des contacts avec les gens de France Télé, Canal+, Arte principalement, et les gens du CNC aussi, et tout ça. Donc ça nous donne déjà un carnet d'adresses qui est assez grand, et une vision de comment est-ce qu'on peut réaliser, comment est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul une fois qu'on est dans le grand bain, qui est pas mal, quoi.
Donc il y a un
Et
côté
la
très
deuxième
autonome en
année.
fait dans ce truc-là. C'est, il faut y aller, si, enfin, il faut pas y aller si on veut être formé vraiment très technique. Il faut avoir le côté un peu apprendre de son côté, trouver des
Ouais.
solutions, trucs comme ça quoi.
Je pense qu'ils font en sorte en général de prendre des gens qui ont déjà des envies, pas j'allais dire des envies précises, mais non, pas forcément, parce qu'on vient aussi, c'est des périodes où on évolue beaucoup et les envies peuvent être assez fluctuantes, mais des gens qui ont déjà commencé à creuser un truc et qui ont déjà un univers et on sent qu'il y a un potentiel de réalisation, de réalisateur ou réalisatrice, quoi. La deuxième année, c'est principalement film de fin d'études. Donc, on a un film de fin d'études avec un format imposé de 3 minutes 30. 3 minutes 30, 4 minutes, enfin voilà, c'est fluctuant. Mais leur idée, c'est que tout le monde travaille, hein, sur un format qui est quand même assez uniforme. Aussi parce qu'on a du coup un même temps de fabrication tous et on a un budget. L'école nous alloue un budget qui n'est pas énorme mais qui est suffisant pour travailler avec des, enfin pour payer entre guillemets nous-mêmes les gens du montage son, et on peut aussi faire intervenir des gens pour nous aider à faire de l'anime, nous aider à faire du compo. Donc on
Peut-être les
apprend
voix,
aussi à
etc.
pouvoir. Ouais, c'est ça, ouais. Et oui, exactement, ouais. Et donc en fait l'idée c'est aussi de pouvoir réfléchir et aller plus loin que ce que là où on irait nous tout seul, parce qu'on se dit moi par exemple je sais que je suis pas très fort en compo, et ben c'est genre le truc où je fais vite intervenir des gens sur mes projets pour m'aider à bricoler des choses là-dessus, quoi. Donc voilà. Et là, j'avais fait un film de fin d'études qui s'appelait Planète après planète, qui est un film de science-fiction.
Donc ça veut dire qu'en sortant de des études, tu avais déjà fait trois courts-métrages finalement entre Marie Curie et les 2 années. Donc tu avais déjà des
Ouais,
trucs à
c'est ça,
présenter
ouais.
qui avaient déjà fait peut-être un peu le tour des festivals, etc. À ce moment-là, quoi.
Ouais, mon film de fin d'études de La Poudrière, il a pas trop trop tourné, un petit peu, mais pas beaucoup.
Ouais.
Mais ça m'allait, je sais pas, j'étais, en fait, je l'avais vraiment réfléchi comme un exercice. Je m'étais dit que c'était un peu le dernier moment ou la dernière fois où je pouvais faire un film encadré par autant de gens. Et donc, je sais pas exactement comment dire, mais je m'étais un peu laissé bercer par le fait de voir ce que les intervenants avaient à m'apporter et tout ça. Enfin, je sais pas, j'étais content du film à la fin, mais j'avais un peu oublié ce que je voulais raconter au début.
Ok, je vois.
Mais
T'as juste récupéré
je
tout ce
sais
que
pas,
tu pouvais
enfin.
récupérer dans l'année,
Ouais,
quoi.
en faisant le tri quand même, quoi, mais je me disais, ça m'arrivera plus jamais, en fait, d'avoir autant de gens qui sont là pour m'aider à faire mon projet. Et ça se vérifie derrière, c'est qu'après, quand on fait un film, en tout cas sur les phases écriture, développement, machin et tout, c'est souvent des périodes où on est assez seul et où si nous, on n'est pas moteur, il n'y a personne d'autre qui est vraiment moteur pour nous, quoi. Et là, c'est un moment où tu as vraiment. T'as Laurent Poubaret, du coup, qui supervise la Poudrière, qui, à chaque début de semaine, on nous donne un planning avec exactement ce qu'on va devoir faire, les intervenants qu'on va avoir et tout ça. Donc, c'est très encadré. Donc, c'est très confortable comme cocon pour faire un film.
Et c'est justement là où je voulais arriver après. Comment est-ce que tu as fait ensuite? Est-ce que tu as été travailler dans un studio en particulier? Est-ce que tu as pris du temps pour faire un autre film sur le côté? Enfin, comment ça s'est passé ensuite justement, est-ce que tu as fait d'autres courts-métrages après, si je ne me trompe pas?
Ouais. J'ai fait pas mal de trucs. En fait, quand j'ai terminé mon film de fin d'études, j'étais parti sur un graphisme qui était au final assez réaliste, alors que c'est pas trop mon style à la base. Enfin, réaliste, faut voir ce que je fais, mais c'est à la manière dont pour moi c'est le plus réaliste des trucs que j'ai fait, quoi, que j'avais fait jusque-là. Mais j'avais des envies d'animation beaucoup plus simples, en fait, d'essayer de diriger mon style de dessin par rapport aux techniques d'animation. Et donc d'animer avec des formes simples, d'avoir des modèles de personnages assez minimalistes. Et je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais en sortant, j'ai essayé de faire un court-métrage qui s'appelait 205, qui était sur l'histoire d'une 205, une voiture. Enfin, qui se passait autour d'une voiture comme ça. Et c'est un film que je voulais volontairement pas cher, que je voulais assez simple à fabriquer et tout ça, en me disant, trop bien, ça va faire un argument facile pour trouver des producteurs et trouver de l'argent si le film est pas cher. Et en fait, ça, je passe les détails parce que c'était un peu long, mais il m'a fallu un certain temps avant de me rendre compte que c'est pas le cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, plus un film est cher, plus il fait rêver tout le monde, parce que plus il va être ambitieux, plus tout ça. Enfin, et le fait de vouloir faire des choses à l'économie, ça ne fait pas forcément rêver les gens. Mais moi, c'était ce qui me faisait rêver, moi. Et donc, j'ai plutôt choisi de travailler en tant qu'animateur et de, quand j'avais du temps libre, de faire mes films à moi, ce qui m'a beaucoup poussé dans des univers assez étranges et assez psychédéliques et expérimentaux, un peu psychédéliques gentils, hein, quand même, mais ouais, je sais pas, enfin, en fait je développais un projet de science-fiction en parallèle avec Jean Boutor, qui est producteur aux Astronautes maintenant, qui s'appelle La Quatrième Planète. Et donc du coup, je sais pas, j'avais déjà un pied dans la science-fiction, donc je regardais plein de trucs, je lisais plein de livres de BD en rapport avec ça. Et puis, plus j'animais sur des courts-métrages et tout, avec les années qui passaient, plus il y avait un truc dans ma tête où je me disais, un peu chiant d'animer toujours des êtres humains là. Et tous les êtres humains marchent un peu de la même manière et tout ça. Et donc, je sais pas, j'expérimentais plein de choses. Et donc, voilà, j'écrivais des courts-métrages comme ça, qui étaient souvent avec des scénarios assez expérimentaux aussi, quoi. C'était pas des structures très classiques. Mais voilà, je m'amusais bien à faire ça. Et en gros, pendant plusieurs années, j'ai tenu ce rythme-là d'essayer de faire un court-métrage par an. Ça pouvait être des formats de 1 minute. Le plus long, il a duré 7 minutes, je crois.
Quand même, en un an, c'est
Voilà,
pas
je
mal.
faisais des
Surtout
choses.
en
Et
travaillant, etc.
de quoi?
En un an, c'est pas mal, 7 minutes en travaillant à côté et tout. Ouais.
Ouais, carrément. Après, du coup, c'était des techniques d'animation qui allaient très vite, quoi. Déjà parce que c'était mon univers graphique, que je réfléchissais ma mise en scène aussi pour qu'elle soit efficace. Et en gros, donc il y a un coup, c'était il y a maintenant, ça doit être 6 ans, 7 ans. J'ai fait donc ce court-métrage qui durait 7 minutes, que j'ai fait en qui s'appelle Wild People, que j'ai fait en l'espace de 3 mois, 2 3 mois, un truc comme ça,
Oui.
quoi. Vraiment hyper efficace et graphiquement trop agréable à animer et tout. Et en fait, quand j'ai terminé d'animer ce film-là, j'étais presque frustré de me dire ah, c'est trop court, j'en avais envie de plus, quoi. C'était vraiment hyper agréable. Et c'est là où je me suis dit, bah vas-y, je peux me lancer dans un projet plus grand. Et donc au début, l'idée, c'était de me dire, allez, je fais un long métrage sans argent. De me dire, je suis sur mon temps libre, j'essaie de, voilà, de faire un long métrage. Donc j'ai trouvé une histoire, enfin j'ai écrit une histoire. Donc le projet, étonnamment, s'appelait dès le départ Bye Bye Elida, alors que le projet a totalement changé après en cours de route.
Oui.
Mais voilà, j'ai écrit ce truc-là, et puis plus je le développais, plus je me rendais compte que j'avais pas la matière d'en faire un long métrage. En tout cas, dans la structure dans laquelle j'étais parti, je sais pas, c'était trop long. Enfin, il y avait un truc qui me plaisait pas. Et donc, je me suis dit, on va pas forcer. C'est un peu dommage de garder comme contrainte juste le fait de se dire non, je veux à tout prix que ça fasse plus d'une heure.
Ouais, c'est ça pour
Donc, je me
dire
suis dit, bah, tant
je
pis.
le fais plutôt que de se dire ça
Oui,
prend
c'est
si ça
ça.
prend 40 minutes, ça prend 40 minutes quoi.
Oui, c'est ça. Ça devenait un truc un peu d'ego de vouloir placer une grosse pierre. Je me suis dit, c'est un peu débile. Donc je me suis dit, non, mais partons. Faut que j'écrive comme j'écrirais normalement, spontanément. Et donc voilà. Après, une fois que j'avais un scénario qui me plaisait, que j'avais fait des recherches graphiques qui me plaisaient, j'ai commencé l'animatique. En fait. À ce moment-là, je travaillais sur Vanille, le film de Guillaume Laurent, je sais pas si tu vois. Et je savais que Vanille, pour moi, ça allait se terminer fin mars, que je pouvais ouvrir mes droits de chômage le 1er avril. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je rentre à Angoulême, parce que j'habitais à Angoulême à ce moment-là. Je rentre à Angoulême et je me donne jusqu'à ma prochaine date d'anniversaire, donc le 1er avril de l'année d'après, pour finir toute l'image du film. Sachant que je ne savais même pas quelle était la durée du film. Donc j'ai commencé l'animatique et j'ai passé 2 3 mois peut-être à faire l'animatique et je tombais sur une animatique qui durait 35-36 minutes. Donc j'ai fait, après je l'ai montré à pas mal de monde, j'ai fait des petits ajustements et tout ça. Puis j'ai commencé à animer et voilà, j'ai passé mon année entière à faire le film que j'ai fini là pendant le premier confinement il y a quelques années du coup. Et voilà, c'était une expérience assez dingue aussi, parce que là, pour le coup, j'ai commencé sans producteur, pour se lancer au début, là, ça faisait 370 plans, je crois, en tout. Il y a quand même un truc où, bon,
Faut y aller.
faut garder l'énergie, et puis une fois que c'est lancé, faut pas trop douter, parce que sinon, on ne filme pas. Donc voilà, j'ai passé un an à calculer mes quotas, à essayer, je faisais en moyenne 12 secondes d'animation par jour. Donc un rythme très effréné. Mais ça s'est bien passé. J'étais dans un atelier à ce moment-là à Angoulême qui s'appelle le Sapin Sympa, avec plein de gens super qui me boostaient bien aussi et qui faisaient des choses différentes. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis ce film-là, il a quand même pas trop mal tourné en festival. Il n'a pas eu beaucoup de festivals, mais il a eu quoi, une dizaine, un peu plus d'une dizaine de sélections. Mais il a eu 3 ou 4 prix, donc ce qui était quand même assez surprenant pour le nombre de sélections. En tout cas, j'étais content de voir que quand il était montré, il faisait de l'effet, quoi.
Ouais.
Voilà. Sachant qu'un film de 35-36 minutes, c'est compliqué à placer dans les festivals. Parce que
Oui,
le
c'est ce que j'allais
festival,
dire sur le
bah,
format, c'est
c'est...
pas facile. Hein. Ouais.
Non. Parce qu'en fait, c'est pas un long métrage. Donc, ils peuvent pas le mettre dans la catégorie long métrage. Et si on le met en court métrage, ça prend la place de 4 courts métrages, quoi. Donc, c'est pour eux, c'est un
Ouais,
peu
c'est ça.
chiant.
Et en plus, si le film ne plaît pas au public, t'es là pendant 35 minutes à attendre le prochain et tout. Enfin, même dans l'expérience, ça peut être
C'est clair.
tendu, quoi.
Ça peut être un peu un piège. Surtout que c'est un film où il faut quand même rentrer dedans. Enfin,
Ouais.
je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est
Pas encore.
assez étonnant. Mais voilà, donc du coup, c'était quand même ça une super expérience. Et puis, qui a quand même fait un bon lien avec Sirocco, parce que Sirocco, c'est aussi des univers un peu étranges et tout ça. Donc, j'étais déjà bien en lien avec Benoît à ce moment-là.
Et ça s'est fait comment justement
Voilà, depuis.
cette rencontre-là? À quel moment ça s'est débloqué de tiens, on... Est-ce que vous avez déjà travaillé sur un truc avant? Est-ce qu'il a vu un film, il s'est dit qu'il allait te contacter? Enfin, ça marche comment?
On avait déjà beaucoup travaillé ensemble, en fait.
Ok.
En gros, quand je le croisais de temps en temps à la cartoucherie, parce que quand j'étais à la poudrière, lui, il bossait à ce moment-là sur Tantilda. Et donc, en fait, on se croisait de temps en temps. Puis un midi, on s'est retrouvés à discuter comme ça. Je lui ai dit que j'avais fini mon film de fin d'études en avance à la poudrière, ce qui était assez exceptionnel.
Ouais.
Et je sais pas, on s'était retrouvés un midi à parler de ça. Et il m'avait dit qu'il avait un court-métrage en préparation qui s'appelait Les tigres à la queue leu-leu. Et donc, du coup, il m'avait dit, vu qu'on commençait à parler d'animation efficace, des manières de faire qu'ont les Japonais, qu'on n'avait pas à ce moment-là encore vraiment à fond en France et tout ça. Enfin, on avait déjà des terrains techniques communs qui nous intéressaient à fond, quoi. Et donc, on avait commencé à parler de ça. Puis, il m'avait demandé si je voulais animer sur le film. Donc j'avais dit bah ouais, carrément avec plaisir. Et avant ça, il m'avait dit si tu veux, le court-métrage il commencera à telle période, je sais plus quand c'était. Mais par contre, avant ça, je vais faire un teaser pour un long-métrage qui s'appelle Sirocco. Et donc ça, c'était en 2013-2014. Donc c'est dire,
Ouais,
enfin,
tout
Benoît a dû
début.
raconter aussi
Oh, il a raconté un
le
peu le
temps que le prince.
cheminement de tout ce truc-là, de à quel point c'est long de à la fois de développer et
Ouais.
ensuite de trouver des gens pour le construire et tout. C'est toujours des gros parcours. Hein.
Ouais, carrément, ouais. Et donc à ce moment-là, j'avais travaillé sur le film en tant qu'assistant animateur. Les animatrices, c'était Suzanne Seidel qui a été après chef anime sur le film, sur Sirocco au final, et Lucrèce Andréae, qui a réalisé Pépé le Morse notamment. Donc très bonne équipe, très intéressant du coup de récupérer des plans de personnes comme ça, parce que c'est très, très impressionnant.
Donc
Et
quand
donc
tu
du
dis
coup, j'avais bossé.
assistant animateur, c'est que tu fais des inters, du clean.
Je faisais, ouais, c'est ça, des inters, du clean. Suzanne, elle m'avait laissé des trucs un peu plus techniques. Je sais pas, enfin, en gros, c'est con, il n'est jamais sorti ce teaser sur Internet, mais c'est l'histoire de personnages qui chevauchaient des espèces d'énormes mains, comme, enfin, un peu comme
Ouais,
si,
ok.
comme la main coupée de Perdu mon corps, mais qui aurait la taille d'un, je sais pas, d'un rhinocéros, tu vois. Et donc, du
Ouais.
coup, les personnages chevauchaient là-dessus. Et il y avait un plan où il y avait un turn des personnages, la caméra qui tournait autour des personnages qui étaient sur le dos de la main et donc du coup qui étaient brassés comme ça. Et donc elle m'avait dit le rythme de course, c'est 5 dessins. Et donc du coup elle m'a dit moi je vais faire un dessin sur 5 et c'est toi qui vas faire tous les autres. Donc là il y avait un petit défi
Petit
technique quand
défi.
même, mais c'était hyper, hyper intéressant. Voilà. Et donc, du coup, j'avais travaillé là, à ce moment-là, sur ce premier teaser de Sirocco, que j'avais adoré. Et l'univers, je sentais qu'il y avait un potentiel de dingue, quoi. Et puis,
Ouais.
ça me donnait l'impression qu'on allait pouvoir faire ce qui nous est rêvé dans l'anime japonais, mais en France, quoi. Et ça me rendait fou. Donc du coup avec Benoît on a continué à bosser dessus. Après j'ai animé sur les tigres à la queue leu-leu. Puis il a fait un autre court-métrage qui s'appelle Le Jardin de Minuit sur lequel j'avais aussi fait de l'anime. Et en fait pendant toutes ces années-là on continuait de s'envoyer plein de références. Dès qu'on avait une idée de film on s'appelait, on en parlait. Enfin on a commencé à avoir une relation hyper proche Dès qu'on trouve, enfin, on passe tous les deux énormément de temps à chercher des films sur Internet, à regarder des trucs de making-of de films japonais pour savoir comment ils ont fait tel truc.
Ouais.
Enfin, voilà, on aime bien diguer un peu tout ça. Et Benoît, il a ce truc-là à fond aussi. Donc, en fait, on adore se voir et ne parler que d'animation. Donc, on avait cette espèce de passion frénétique. Et donc voilà, et puis plus ça allait, plus lui il partait aussi dans des trucs de science-fiction. Jardin de minuit, c'est pareil, c'est un film qui est quand même assez déroutant et dans son univers, quoi. Et moi je creusais bien là-dedans aussi. Il y avait Bye Bye Elida qui arrivait en parallèle. Et puis en fait, au fur et à mesure, donc il avait signé avec Sacrebleu, il y avait une première version d'Animatique et tout. Et au final, au fur et à mesure, moi, je lui donnais, il me faisait lire à chaque fois, enfin souvent en tout cas, les versions de scénario. Je lui donnais mon avis. Après, quand il a commencé à bosser sur l'animatique, pareil, je lui donnais mon avis de temps en temps. Et il y a un coup où ils avaient eu une aide de Cyclique en région Centre-Val-de-Marne pour venir faire une résidence de développement. Et il m'avait proposé d'aller là-bas avec lui. Du coup, on était partis 2 mois tous les deux à Vendôme pour défricher plein de trucs sur l'univers, quoi.
Ça doit être
Donc, on
cool en
avait
vrai
fait.
de se dire on a 2 mois pour faire tout, juste discuter, dessiner, prendre des
Alors,
images, des machins, enfin.
ouais. Sachant que Benoît, il arrivait, il avait déjà énormément de matière.
Ouais, il arrive avec ses
En
mallettes,
vrai,
hop là,
moi, je
on
m'étais
démarre de
dit.
là.
Ouais. Je m'étais dit, cool, trop bien, on va pouvoir caler toute la DA ensemble. En fait, il est arrivé, il avait déjà des tonnes et des tonnes
Ouais.
de feuilles, de trucs qu'il avait grattés, de trucs qu'il avait cherchés et tout ça. Donc, il y avait déjà énormément d'idées qui étaient complètement dingues. Et on n'a pas du tout la même manière de dessiner. Moi, je pense que je suis capable de passer 1 heure comme ça, la tête dans ma main, à réfléchir à un design de personnage avant de sortir quelques dessins. Ouais, il tombe du papier, il tombe, il tombe, il tombe, il dessine vachement à l'instinct, il teste des trucs, enfin, il cherche en dessinant, quoi.
Ouais.
Et donc, au final, on avait beaucoup pendant cette résidence-là. C'est surtout lui qui avait dessiné plein de trucs, mais on discutait en se disant tiens, sur l'île des mariés, là, est-ce que au début, on s'était dit il faudrait une architecture, il faudrait un truc un peu chic, mais il faudrait pas que ça ait l'air trop bricolé. Et puis, on s'était dit ah, si on fait un truc, si on humanise un peu les bâtiments pour qu'ils. On ait l'impression que ce soit des personnages qui s'enlacent ou qui s'embrassent, enfin voilà. On essayait de chercher des idées comme ça, puis après on faisait des dessins, on grattait du papier, quoi.
C'est vrai
Et
qu'un des
donc on
trucs
a fait.
principaux du film, je trouve que c'est l'univers particulier où il y a des trucs que tu vois pas ailleurs, des formes, des façons de faire bouger les choses et tout. Donc ça, c'est un des trucs
Ouais.
que je trouve le mieux dans le film, quoi. C'est l'univers
Ouais.
qui est créé où tu as l'impression quelque part, tu es très dirigé sur l'histoire principale, mais tu as l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent et que tu vois juste pas parce que ça vit derrière, etc. Et
Ouais,
c'est pas
carrément.
toujours comme ça dans les films, quoi. Donc c'est cool.
Bah l'idée du film, elle était partie de là à la base, hein. C'est Benoît qui faisait des recherches graphiques en ayant envie d'un univers hyper foisonnant. Et puis après, il a commencé à bosser avec des scénaristes pour
Ouais,
trouver une
pour
histoire
cadrer.
qui s'amène dans ce monde-là, quoi. Mais oui, carrément. Et puis ouais, il est hyper fort, il dessine hyper vite. Enfin, c'était vraiment hyper impressionnant. Et donc on a fait ça pendant cette résidence. Et la deuxième partie de la résidence aussi, moi je voulais aussi faire pas mal de recherches par rapport à la manière d'animer les différentes choses. Donc il y avait comment on peut animer un deltaplane qui vole, comment on peut. Enfin, il y avait tout, quoi. En fait, il y avait
Ouais.
Sirocco, à quel point est-ce que tout bouge, les bonhommes bibendum, eh ben, comment on les fait bouger, la tempête gonflable avec ses tentacules. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à chercher comme ça. Et moi, c'était la partie qui m'éclatait le plus, quoi, de me dire, en fait, même il y a des trucs où on a ajusté des designs et tout ça, où, enfin, voilà, on a changé des choses en se disant, non, mais ça, il faut l'animer de telle manière, ou alors, les bibendums qui sortent du palais prison, au début, c'était pas prévu qu'ils sortent par un tuyau. Et puis en discutant avec Benoît, on se disait, bah, attends, mais ce serait fou si au début, il y a juste un œil, que ça se gonfle, qu'il y a un bras qui sort. Et enfin voilà, on partait en se disant, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir des trucs qui vont être plaisants à animer, quoi. Donc on a beaucoup bossé là-dessus.
Donc là-dessus, c'est vraiment des tests dans tous les sens de posing et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment
C'est
aussi des
ça.
tests d'animation pour voir si ça bouge bien, les trucs comme ça?
Ouais, moi j'avais fait pas mal de tests d'anime, mais justement sur les bibendums pour voir comment est-ce qu'on peut faire marcher En fait, on était parti sur l'idée des bonhommes frites qu'on voit devant les magasins aux États-Unis, tu vois, les trucs qui se gonflent avec les bras qui sont comme ça, là. Mais en se disant, sauf que c'est complètement. Ça n'a aucune logique de rythme de marche, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver le croisement entre une marche qui ne soit pas trop chaotique, où il ne faut pas qu'on ait l'impression que le personnage il est bourré non plus, mais il faut qu'on sente quand même qu'il est creux et que c'est de l'air qui circule à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai fait des tests d'anime de ça, des petites créatures qu'on voit dans le village au début. J'avais fait un cycle de marche du maire du village et de son fils, histoire de tester un peu l'aplomb des personnages, des tempêtes. Il y a même j'avais animé des trucs de séquence. Il y avait une autre version où il y avait des moulins. J'avais animé des moulins, mais qui sont plus du tout en scénario. Enfin, voilà, du coup, c'était un peu des tests, histoire de caler les directions vers lesquelles on voulait aller, quoi. Et qui, je pense, eux aussi leur servaient à caler l'ADA, à aller chercher de l'argent, enfin, voilà, tout ce genre de choses.
Donc à ce moment-là, est-ce que tu es déjà, on va dire officiellement, voilà, tu es assistant réel ou est-ce que c'est juste, tu as
Non.
participé au truc et ensuite un jour on a dit, ben voilà, en fait c'est ça ton rôle, parce que c'est plus organique que ça,
Ouais, c'est
j'imagine.
ça. Ouais. Et puis en fait, moi, je réfléchissais beaucoup au projet en me disant, en essayant d'imaginer les trucs que moi j'aurais trop envie d'animer. Enfin, c'était comme ça. Donc moi, dans ma tête, je me disais, quand le film il va commencer, je ferai de l'anime, quoi. Et puis, j'étais en train de faire Bye Bye Elida à Angoulême. Donc du coup, j'ai pas participé à la fabrication du teaser qui était pendant un moment sur Internet, là, parce que je faisais mon film. Mais on en parlait avec Benoît, et puis il commençait à faire l'animatique, et puis je lui disais que moi j'avais envie de faire d'autres films à moi derrière, et donc du coup j'avais pas envie de me bloquer 6 mois, 1 an pour faire de l'anime sur Sirocco. Enfin voilà, je savais que ça allait être un peu long. Et puis il y a aussi plein de séquences réalistes ou alors de trucs moins exubérants à animer qui m'intéressaient moins. Donc du coup je commençais un peu à faire mon petit caprice. En disant, moi je veux bien venir, mais que sur telle période, et puis je veux bien animer que ces séquences-là, machin et tout. Et puis un jour, il m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresserait pas d'être assistant réal? Parce qu'au final, tu connais le projet depuis le début, on sait qu'on bosse bien ensemble. Et voilà, est-ce que c'est un poste qui t'intéresserait, quoi? Sachant que en soi, c'est pas forcément un type de poste qui me parle. Enfin, c'est pas vers ça que je voulais tendre. Moi, ça m'amusait de. Enfin, je préfère dessiner, quoi, que de gérer des plannings et tout. Mais du coup, c'est ce que j'avais dit à Benoît. Je lui avais dit, bah, moi, ça m'intéresse, mais que si c'est pour avoir un rôle artistique à jouer à tes côtés, plus que gérer un planning et gérer des tableaux sur Kitsu et tout ça. Donc voilà. Donc lui, il était carrément d'accord avec ça. Et puis voilà, après, je sais pas
D'où le
sur quoi
fait
tu
que
voulais.
assistant réalisateur ou assistante réalisatrice, ça peut être un peu fluctuant selon les productions, parce qu'il y a déjà eu une vidéo avec justement quelqu'un qui était assistante réalisatrice sur des séries et qui ne dessine
Ouais.
pas, etc. Tu vois, donc ce rôle-là, il peut avoir l'air un peu flou, parce qu'on voit ce que
Ouais.
c'est, mais en même temps, ça dépend des productions, de l'attrait de chacun pour telle ou telle partie, etc., quoi. Donc
Ouais.
dans ton
Bah,
cas,
en tout
c'était
cas,
comment ce truc-là? Tu faisais quoi
c'est vrai
finalement?
qu'au début, je me posais la question de savoir qu'est-ce que ça fait vraiment un assistant réalisateur ou une assistante réalisatrice. Donc du coup, j'avais posé la question à des gens que je connaissais qui avaient déjà fait ce boulot et personne n'avait la même réponse. Mais je me suis dit, bon, bah, va falloir qu'on trouve notre équilibre à deux avec Benoît. Mais en tout cas, le truc qui ressortait tout le temps, c'est que tu es là pour. Les deux trucs qui ressortaient, c'était tu es là pour essayer de te placer à l'endroit où le réalisateur ne peut pas se placer ou alors ne veut pas se placer. Des fois, il peut y avoir des réalisateurs qui n'aiment pas du tout superviser la technique de leur film. Et donc, du coup, ça prend un peu cette place-là. Des fois, ça peut être pour aider à des choix artistiques ou alors simplement faire du planning et du suivi de fabrication, quoi. Ça peut être très variable. Et l'autre truc aussi que Benoît m'avait dit au début, que j'avais trouvé hyper cool, je crois que c'était lui qui m'avait dit ça, il m'avait dit, t'es pas là pour défendre ni le réalisateur ni le producteur, t'es là pour défendre le film. Ça veut dire que tu T'es pas plus du côté de la prod que du côté du réal. T'es là pour essayer de penser à ce qu'il y a de mieux pour le film, quoi. Et ça, c'était un point de vue que je trouvais assez cool. J'ai essayé de garder tout du long. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Du coup, j'ai fait quand même. En fait, j'ai fait un peu de tout à toutes les étapes. Aussi parce que du coup, j'avais envie de mettre mon nez dans l'artistique. Mais quand on a commencé la pré-production avec Suzanne, on a fait beaucoup de tests d'animation, voilà, pour essayer de caler la DA, parce que, enfin, caler la DA graphique a été faite, mais la DA d'anime, il y avait quand même grave du boulot. Parce que le problème d'un univers comme ça, c'est que vu que c'est des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, on n'a pas tous le même référentiel. Donc, c'est-à-dire que la manière de comment marchent les personnages, comme on disait tout à l'heure, l'intensité du vent dans les cheveux de Sirocco ou sur ses vêtements, et ben non seulement chacun peut imaginer un truc différent, mais en plus, l'intensité du vent sur Sirocco change en fonction de son émotion. Et l'intensité du vent que tu donnes sur une valeur du plan ne donne pas le même effet sur une autre valeur de plan. Donc c'était un casse-tête de l'enfer. Mais donc du coup, voilà, il fallait faire tous ces tests-là pour avoir des infos les plus précises possibles à donner aux équipes. Ça, c'était un truc qu'on avait dès le début, c'est que on savait que quand on a commencé la fabrication, on a commencé la fabrication parce que on savait que si on commençait plus tard, on n'aurait pas assez de temps pour faire le film. Donc du coup, ça veut dire qu'on a déjà commencé à un moment où on savait qu'on était ric-rac, avec un budget qui n'était pas celui qu'il aurait fallu avoir. Parce que clairement, il aurait fallu, je sais pas, le budget général du film, mais en tout cas, sur les quotas et tout, c'était quand même un peu ric-rac. Et un Benoît Chieux qui voulait pas forcément revoir ses exigences à la baisse. Et ce qui s'entend très bien. Et puis moi, j'imaginais très bien le film tel qu'il l'imaginait aussi. Donc du coup, j'essayais aussi de me battre de son côté pour qu'on trouve des moyens techniques d'arriver là où il voulait en arriver et pas sacrifier la partie technique animation du film, quoi. Donc ça veut dire que les premiers mois, on s'est dit bah, le meilleur moyen d'être le plus efficace possible, ou en tout cas de perdre le moins de temps et le moins d'argent possible sur la fabrication, c'est d'avoir une préparation aux petits oignons et d'avoir les turns de tous les personnages, d'avoir calculé tous les quotas, d'avoir calculé les quotas en fonction du nombre de dessins, c'est-à-dire que quand les animateurs ou animatrices récupéraient un plan, ils avaient sur Kitsu une colonne, enfin une case marquée le nombre de dessins qu'ils avaient le droit de faire. Donc ça veut dire parce qu'en fait on savait que ce qui prend le plus de temps, enfin ce qui définit le temps qu'on passe sur un plan, c'est pas la durée du plan, c'est le nombre de personnages et le nombre de dessins que tu vas faire par personnage. Plus il y a de dessins à faire, enfin plus il y a de distance en trait à faire entre guillemets, plus c'est long, quoi.
Et c'est vrai que ça, c'est un truc, on l'a évoqué un peu dans la discussion avec Jérémy Perrin et Anne Galvez sur Mass Express, le côté, des fois, on te demande, au-dessus, on va dire, de réduire le film en durée, alors que plus court, ça ne veut pas forcément dire plus facile à animer, puisque ça peut être des plans, surtout dans Sirocco et autres, c'est des plans qui peuvent être très longs, avec, si tu enlèves 4 secondes, en fait, ça change rien, tu vois, au panoramique ou des trucs comme ça, quoi. Donc
Ah
c'est
bah
toujours un
oui,
peu
carrément.
particulier à gérer, j'imagine, aussi. Là-dessus, quoi. Surtout sur un truc un peu contemplatif
Ouais.
et tout.
Mais c'est une je sais pas comment dire. Parce que sur Sirocco, il y a eu aussi ce truc-là de on a commencé le film, on s'est rendu compte que ça allait être trop ric-rac, du coup le film est reparti en montage, il a fallu réenlever au moins 5 minutes, je crois.
Ouais.
Et moi, c'était le truc qui me faisait très peur, et à Benoît aussi, c'est que on s'était dit, on avait essayé de garder des moments justement de contemplation et pour faire vivre un peu l'univers un peu tout au long du film. Et on s'est dit, mais ça, un monteur, enfin là en l'occurrence c'était une monteuse, on s'est dit non mais là la monteuse, elle arrive, elle va enlever tout ce qui est superflu dans l'histoire et elle va faire gicler tous ces trucs-là. Et en fait, pour nous, c'était ça qui faisait la saveur du film. Et en fait, elle est arrivée en disant non, mais j'ai bien compris en fait où était la saveur du film. Et justement, on va essayer d'écrémer dans des dialogues, d'être plus efficace à d'autres endroits et tout ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Recouper, c'est sûr que c'est ça, ça fait pas que ça permet pas forcément de se dire que ça va être moins long, moins compliqué à fabriquer. Mais politiquement, c'est, je pense que pour les producteurs, enfin, ça fait partie des choix
Ouais,
politiques
de dire on a
ou
enlevé 8 plans, regardez, on fait des efforts, etc.
c'est
quoi.
ça, ouais. Mais donc du coup, voilà, on a fait toute cette prépa là pour les équipes de layout puis les équipes d'anime parce que comme Benoît et Virginie ont dû le dire, l'animation, enfin le film, nous on était à Valence avec l'équipe de tête entre guillemets. Quand je dis équipe de tête, c'était hors équipe Sacrebleu. Sacrebleu, ils étaient à Paris. Nous on était à Valence avec chef déco, chef anime, Benoît, moi et puis l'équipe des astronautes qui supervisait aussi la fabrication en la présence de Fanny. Et après, les équipes techniques qui fabriquaient le film, il y en a eu une partie à Valence au début pour les layouts. Et après, anime, clean, colo, compo, c'est fait entre Marseille, Strasbourg, deux studios à Bruxelles et un studio à La Réunion. Donc là, pareil, il fallait réussir à coordonner tout ce monde-là, à synchroniser tout le monde. C'était un bon gros morceau, mais c'est pareil. Enfin, en fait, on a entre l'équipe Sacrebleu et l'équipe des astronautes, on a quand même réussi à bien cadrer les choses et à bien travailler aussi. Enfin, on a eu aussi quand même la chance d'avoir des équipes à tous les niveaux qui étaient très chauds du projet et donc qui mettaient une énergie et un niveau au-delà de nos attentes, je pense. Donc en fait, tout s'est quand même plutôt bien orchestré pour que ça puisse donner ce résultat, quoi. Moi, je trouve que ça a été un truc qui est quand même une grosse leçon, même sur les autres projets que j'ai envie de faire derrière. C'est que c'était hyper agréable de sentir que le projet était très fédérateur. Et ça m'est pas beaucoup arrivé de bosser sur des films. J'ai pas bossé sur de grosses séries ou de grosses licences où au bout de la 8e saison, ça se lasse un peu et puis les gens sont là principalement pour faire leurs heures. Mais là, on sentait que même au recrutement et tout ça, tout le monde était trop chaud, tout le monde avait trop envie d'animer des trucs dans cet univers-là. Et donc, on n'a pas eu du tout à pousser les équipes pour leur donner l'énergie, quoi. En fait, où qu'on arrive, les gens, ils avaient déjà une énergie de fou et ça, c'était vraiment super agréable.
Et toi,
Voilà, c'était.
à quel moment t'interviens en fait, par exemple, quelqu'un anime un plan, est-ce que toi tu vas déjà être là en même temps que la personne qui supervise, ou alors une fois qu'il y a eu de la supervision, toi tu vois les plans? Comment est-ce que tu arrives à avoir un œil à peu près sur tout sans voir non plus les premières étapes où quelqu'un d'autre va superviser?
Alors, ce que nous, on avait fait, en gros, si on suit le cheminement d'un plan de A à Z, on avait du coup une équipe layout qui faisait les layouts personnages et layout décor.
Oui.
Layout décor qui était fait directement au clean et qui allait directement à la mise en couleur, et c'était ça le décor final, vu qu'au final, c'était des décors à la ligne, le layout était suffisant. Et après, entre le layout et l'anime, moi, il y a un truc qui m'a pris beaucoup de temps, c'est que j'écrivais un paragraphe pour chaque plan pour expliquer comment est-ce que le plan doit être animé, comment est-ce que le plan doit être fait jusqu'à la fin du compositing. Parce que, en fait, je me disais, en fait, il y avait tellement de trucs, de mini-parallaxes qu'on voulait faire sur les personnages et tout ça, de trucs précis où je m'étais dit, si on leur demande juste de séparer ça, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs où des fois les personnages juste ils bougent pas, mais il y a un léger mouvement de caméra qui fait qu'on a besoin de dire, eh ben sur Selma, on a besoin d'avoir quand elle est en train de voler avec le deltaplane, par exemple, souvent on avait besoin d'avoir une boucle d'animation avec la robe sur un calque, une boucle, enfin un calque avec la partie haute de son corps, buste, bras, machin et tout, et une partie avec la tête pour pouvoir après faire une parallaxe et faire des décalages de niveau. Et ça, c'est des trucs où si tu dis juste j'ai besoin d'avoir ça à part, bah c'est pas forcément toujours clair, ou en tout cas les gens ils savent pas pourquoi ils doivent le faire. Et donc du coup on s'était dit, faut qu'on écrive des paragraphes pour que les gens ils sachent exactement qu'est-ce qui va être fait derrière, même des fois pour faciliter la colo derrière ou le clean, enfin voilà, en tout cas de se dire que il y a une trace écrite de comment est-ce que le plan doit être fait.
Donc c'est
Autant
vraiment
pour
technique ou
les...
il y a aussi le côté intention dedans, au niveau de l'animation, du mouvement?
Il y a aussi le côté un peu intention. Après, Benoît, il avait fait une animatique qui était quand même déjà hyper claire et très poussée. Plus le layout, il y avait quand même une base de travail qui était bien solide. Mais il y avait aussi un peu les intentions. Mais par exemple, un truc qu'on voit souvent dans les films d'animation et qui, moi, à chaque fois, me dérange un peu, c'est que quand tu as un champ contre champ de deux personnages qui discutent, vu que c'est pas forcément les mêmes animateurs qui vont animer tous les plans qui reviennent sur un personnage, et ben des fois il peut y avoir une mèche de cheveux qui va être différente, ou alors un grain de beauté qui va pas être placé au même endroit, ou des trucs comme ça. Et donc tout ça, c'est des trucs que je voulais que ce soit très carré là sur Sirocco. Et donc du coup je disais, quand vous avez telle séquence à faire, commencez par tel plan, parce que la dernière image de ce plan-là va vous servir à faire la première du plan d'après. Enfin voilà, de donner un peu les indications de raccord, hein, tout ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps à écrire tout ça. Ça faisait un doc de 300 pages avec toutes les intentions pour les animateurs et animatrices. Après ça, on faisait un Skype. En gros, donc il y avait de l'anime à Marseille, Strasbourg et La Réunion et Bruxelles. Et en gros, on avait réparti par séquence, donc ça veut dire qu'ils avaient, on coupait jamais les séquences d'un studio à l'autre, quoi. Ils avaient un bloc complet à faire, dont on leur donnait la responsabilité de checker eux aussi les raccords et tout ça, enfin en fait pour les responsabiliser aussi. Enfin, et puis c'est plus intéressant d'avoir un morceau complet à montrer en disant voilà, nous on a fait tout ce bloc-là. Donc il y avait ça. Et donc avant de commencer une séquence, on commençait par faire un Skype avec eux en regardant l'animatique avec toute l'équipe pour discuter un peu des intentions en disant voilà ce qu'on a prévu, voilà ça il faut penser à ça, faites attention à tel truc. Et pour voir si eux aussi ils avaient des questions. Et aussi tout simplement pour avoir du lien humain et ne pas juste passer par
Juste du
Discord ou
texte,
Mattermost.
ouais.
Et puis aussi, ça nous permettait à nous d'avoir des interactions avec les équipes. Et notamment, Benoît, il est quand même assez généreux en compliments avec les gens avec qui il travaille. Et donc, du coup, faire des Skype avec les équipes pour leur dire, pouah, on a vu la séquence du
Ouais.
Deltaplane que vous avez fait là. Incroyable, mais c'est trop bien, vous êtes trop fort. Je suis hyper content, machin. Et en fait, du coup, c'est aussi des trucs où ça rebooste tout le monde et ça donne à tout le monde une vraie place au sein du projet, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. Après, donc du coup, les plans, donc ils partaient en anime. En anime, on avait trois étapes différentes. On avait le blocking, donc qui consistait à faire seulement les poses clés des personnages. Parce qu'en gros, en layout, ce qu'on leur fournissait, c'était une image par personnage clean par plan. Souvent, il n'y avait pas plus parce que le layout était assez poussé, donc on n'avait pas forcément le temps de faire plus d'images. Mais du coup, après, on leur demandait une première étape où ils faisaient eux-mêmes toutes les poses clés par lesquelles allaient passer les personnages. Et ça nous revenait du coup à Valence. On visionnait tout ça avec Benoît et Suzanne. Pour discuter en disant non, là, ils n'ont pas exactement compris. Là, il y a des trucs de modèle à reprendre. Là, il y a des trucs dans l'axe par rapport à la perspective, machin. Donc, c'était surtout Benoît et Suzanne à ce moment-là qui faisaient des ajustements techniques comme ça. Après, ça repartait dans les studios. L'étape de rough était validée par les chefs de poste anime en interne. C'est-à-dire, ça revenait pas forcément à Valence. Sauf si eux, ils avaient des questions très spécifiques. Et après, donc une fois que le rough était validé en interne, il passait à l'étape du tie-down. Donc là, c'est faire en sorte que tous les dessins soient le plus propres possible pour qu'au clean, il y ait la marge d'interprétation la moins grande pour histoire de baliser le truc, quoi.
Et après, il y a tout le reste des étapes qui vont superposer aussi, parce que à quel moment, par exemple, le compositing commence, par exemple, ou alors la colo, parce qu'au début, on commence que par l'anime, et après, au bout d'un moment, ça commence à s'empiler et à superposer. Est-ce que tu fais aussi partie de ce truc-là, de gérer où ça part, comment c'est fait?
Ouais, et en fait, je viens de repenser à ta question d'avance. C'était qu'est-ce que je
Ouais.
faisais moi là-dessus. Et en fait, j'ai aussi fait quand même pas mal d'animes
Ah, ok.
parce qu'il y avait des trucs qu'on envoyait soit au blocking Et après, je me disais, on en discutait avec Benoît, et je disais, non, mais en fait, j'ai une vision hyper claire de ce que j'ai envie d'avoir, et donc, du coup, je prenais la suite. Ou alors, dès le début, il y avait des plans où j'avais dit, moi, ça, c'est des plans que je veux, moi, sur justement tous les trucs, les poissons qui se gonflent et qui se projettent comme ça, l'espèce de petite araignée dans le coquillage qui sort du sable. Enfin, voilà, il y avait plein de mini choses comme ça, et beaucoup de FX aussi. Je sais pas pourquoi ça m'intéressait, là, les FX sur ce film, la manière dont ils étaient dessinés, ça me plaisait bien. Donc j'ai animé pas mal de nuages, pas mal de tout ça.
Mais
Et après,
animé jusqu'au bout ou animé pour le côté voilà comment ça doit être et tout ça?
Non, 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 j'animais le plan, et après, enfin, je le faisais jusqu'au tie-down, et après, ça partait pour du clean, ça
Ouais, donc
rentrait
c'est
dans
là c'était vraiment du
le.
coup le travail animateur comme l'équipe quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
C'est ça. Mais c'est juste que ça m'aurait trop frustré de ne pas le faire, je
Ouais.
pense. Mais des trucs que j'avais vraiment envie d'animer.
Bah surtout que tu as
Donc,
imaginé un peu comment ça bougerait, etc. Donc tu as dit que tu as créé toi-même tes
ça, ouais.
propres envies de plan après et tout. Je peux
Ouais,
comprendre
c'est
la
ça, ouais.
frustration si jamais tu le fais pas.
Après, j'étais trop content aussi de voir comment les différentes équipes s'en emparaient et ce qu'ils en faisaient. Enfin, c'était trop bien, quoi. C'était
Ouais.
vraiment chouette. Et après, sur le clean, en gros, ce qu'on a fait au début, c'est que les séquences qu'on envoyait en clean, les premières séquences, on renvoyait, dès qu'il y avait la moindre retake, on la renvoyait. On renvoyait tout. Et parce qu'on s'était dit que c'était plus intéressant aussi pour les équipes sur place de savoir exactement quelles sont les erreurs qu'ils font au démarrage et
Et
qu'est-ce
de
qu'il
pas les
faut
corriger
corriger.
vous sur place directement quoi.
C'est ça, en fait, de se dire que si dès le début on les corrige nous, eux ils savent pas que c'est des erreurs et donc en fait ça se perpétue quoi. Et donc du coup pour toutes les équipes de clean, au début on renvoyait tout. Donc au début ça leur fait très peur parce que quand ils nous envoient une séquence de 40 plans et que une semaine après on renvoie les retakes et qu'il y a 35 plans en retake, ça fait très peur.
Ouais.
Mais des fois ça peut être juste, bah non, la nomenclature est pas, enfin les calques sont pas bien renommés ou sont pas bien rangés ou sont pas de la, les traits sont pas de la bonne couleur, enfin voilà des trucs comme ça, mais histoire de savoir à quoi ils doivent faire gaffe. Et en fait, une fois que ça avait été fait, tout le monde s'était bien mis dans le bain. Et puis après ça roulait quoi. Au final, je pense que sur, je sais plus, il y a 36 séquences sur tout le film. J'ai dû faire moi-même les retakes clean d'une trentaine de séquences, je pense. Mais parce que c'était des trucs que j'arrivais à éponger à côté, parce qu'en fait, ils bossaient tous de manière tellement précise qu'après, on se disait, ah, là, il y a un truc, là, sur l'œil, sur cette image-là, il manque un peu des trucs, enfin, voilà. Ou alors des mini détails de se dire, ah, là, ça a pas, on l'aurait pas géré comme ça. Donc, c'était des mini retouches, mais donc, moi, tout seul, suffisait à éponger les retakes, quoi. Donc c'est que ça bossait vraiment trop bien. Et après, Colo, pareil, on avait une équipe Colo perso et décor à Bruxelles. Et pareil, hein, ça a roulé. Enfin, ça a été des équipes super de bout en bout. Hein. Donc, très peu de grosses mauvaises surprises, quoi. Il y a eu plein de petits ajustements au fur et à mesure, mais voilà.
Est-ce que les équipes se sont vues à un moment donné des différents studios et tout? Je sais pas, est-ce qu'à la fin il y a un truc où tout le monde essaie de d'être au même endroit pour faire un truc ou pas du tout? J'imagine que c'est compliqué.
Bah, c'est compliqué. C'est
Ouais.
compliqué parce que ça s'est pas mal mélangé à Annecy, quoi. Mais une fois que le film était terminé. Mais sinon, ouais, non, c'est quand même compliqué. Et même nous, en fait, au début, on s'était dit il va falloir qu'on aille voir tout le monde. Dès le début, on a essayé de négocier, d'aller à La Réunion. Forcément, c'était un peu compliqué, mais ça donnait envie. Mais de toute façon, on savait qu'on n'y serait pas allé pour faire du surf, quoi.
Ouais.
Mais en fait, même on s'était dit, c'est cool, on est à Valence, Marseille, c'est pas loin, on va aller quand même régulièrement à Valence, à Marseille. Et en fait, on n'est jamais descendu, quoi. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'avec quatre lieux de fabrication en même temps, ça veut dire qu'il faut répondre aux questions et aider les quatre studios en même temps. Si tu passes une journée à aller dans un studio, et ben le lendemain, tu dois éponger en plus toutes les questions des trois autres
Que t'as
studios de
reçu,
la veille.
ouais.
Et alors nous, avec Benoît, plus la fin se rapprochait, plus sur le clean, colo, compo et tout ça, on a pu pas mal bouger, notamment à Bruxelles, enfin que à Bruxelles même d'ailleurs. pour bosser avec les équipes. Mais par exemple, pour Suzanne, qui a supervisé toute l'anime, et c'était elle qui était le plus près des chefs animes et des animateurs et animatrices qui bossaient sur le film, et ben en fait, elle les a vus que par Skype, quoi. Et ça, on s'est dit, c'est quand même un peu frustrant. Ça, c'était un peu un petit regret. Mais autrement, il y a un truc qu'on avait organisé au démarrage, que Virginie avait appelé les classes vertes. C'est les chefs de poste qui venaient travailler une semaine à Valence avec nous. Donc on a eu, on les a pas tous eus, mais on a eu au moins les chefs animes, les chefs clean. Je crois que c'est tout. Mais donc du coup, ils venaient une semaine à Valence et ils logeaient chez nous. Et donc du coup, ça veut dire que tu les vois pour bosser, mais aussi pour discuter le midi ou le soir et puis parler de plein de choses, de la vie et tout ça. Ce qui fait que déjà, quand après tu commences à travailler ensemble, il n'y a plus la barrière de la distance un peu timide de se dire qu'on ne connaît pas, là, de se dire attends, il y a un problème, on s'appelle tout de suite et puis on s'écrit un mail. Enfin voilà, mais en tout cas, de se dire que c'est bon, le contact, il est fait, quoi. Et ça, vraiment, ça a été trop bien. Et je pense que, avec du recul, à refaire pour d'autres films, il faut vraiment que le réal, il aille une semaine dans chaque lieu de fabrication, quoi. Après, ce qui est compliqué, c'est que les équipes, elles tournent. Mais en vrai, juste faire la connexion, d'aller rencontrer les gens, manger avec eux une fois ou deux, même si c'est 2 jours, tu vois, en vrai, c'est trop
Ouais,
important et
ça joue
ça fait du bien tout le monde, quoi.
dans le côté aussi, on sait
Ouais.
avec qui on travaille. Parce que sinon, c'est ça
Ouais.
fait très distanciel. Hop, on le voit un peu, mais en fait, on sait pas
C'est ça,
exactement
ouais.
ce que c'est
Ouais.
en dehors du travail. Avec juste un repas, tu peux déjà apprendre beaucoup de
Carrément.
choses. Juste est-ce qu'on s'entend, des trucs
Ouais.
comme ça, quoi.
Ouais, à fond. Et aussi, un autre truc qui a fait que les gens, c'était difficile de les réunir tous au même endroit, c'est que vu que le travail s'étale sur presque 2 ans, et ben en fait, l'équipe décor, elle a fini un an avant l'équipe compo, quoi. Donc en fait, c'est des gens qui ne se croiseront jamais, même dans une durée de prod, quoi.
Ok, donc c'est vrai que c'est un des trucs, on en a parlé un petit peu avec Virginie du côté, ben maintenant c'est le cas de toutes les prods quasiment, qui sont un peu éparpillées à la fois entre régions, à la fois aussi des fois où il y a la Belgique avec, je sais pas trop à quel point il y a d'autres pays des fois, mais il y a des collaborations
Bah, il y a le
européennes et tout ça.
Luxembourg souvent, il y a
Ouais,
l'Espagne,
voilà,
il y a,
ouais.
enfin, si, il y a quand même, ouais.
Donc c'est très souvent pour aussi des raisons de, ben, il faut avoir des financements à gauche à droite et avoir des studios à gauche à droite pour justifier. Ce qui fait que toutes les productions sont un peu éclatées comme ça. Et donc elle me disait que c'était un truc qui n'était pas facile, quoi, à gérer, à faire en sorte que tout se passe bien, parce que bah, c'est un peu tout ce qu'on a dit là, quoi. Tu peux pas te réunir et tout ça.
Ouais.
Et sur place, il y avait combien de personnes vraiment là où t'étais?
À Valence?
Ouais.
Nous,
À
à
peu près, hein.
Valence, en fait, au début, on a eu des équipes sur place que pour les layouts. Donc, du coup, au layout, je crois qu'on avait à un ou deux près, je ne sais plus, mais en gros, on avait 10 personnes en décor, 10 personnes en posing personnage. Et après, on avait dans l'équipe de tête, ouais, comme je disais, la chef anime, chef décor. Et enfin, du coup, Jean Boutor des astronautes qui, lui, supervisait de loin, enfin, suivait de loin la fabrication, mais était là pour répondre un peu aux questions qu'il pouvait y avoir au fur et à mesure. Et autrement, Fanny, qui était, elle, vraiment un de mes binômes les plus proches sur toute la fabrication et aussi en lien direct avec Virginie de Sacrebleu. Mais en gros, c'est elle qui a beaucoup chapeauté. Enfin, elle a, je sais pas exactement comment le définir, mais en gros, là où la prod gère souvent les problèmes, enfin, les questions de prod et assistant réel, ça va être plus les soucis des techniques, des équipes, des machins et tout ça. Fanny, elle était vraiment tampon entre les deux et elle était vraiment trop forte et hyper impliquée sur le projet à tel point qu'elle était censée s'arrêter normalement à la fin du layout, c'est-à-dire de ne superviser que la partie qui allait se faire aux astronautes. Et en fait, elle avait tellement mis la main dans le projet, elle avait tellement tout compris comment les choses devaient se faire et tout ça, que très vite, avec Benoît, on a dit à Sacrebleu, mais en fait, si Fanny, elle s'arrête, tout s'arrête, tout explose. En fait, elle avait, elle, parce que vu qu'il y avait des trucs qui étaient faits en 3D, il y avait des trucs en 2D, il y avait des trucs qui allaient se faire que au compo, et elle avait tout en tête, elle savait tout, qu'est-ce qu'il fallait faire avant quoi, machin et tout. Et on s'était dit, mais trop précieux, quoi. Et vraiment, heureusement qu'elle était là, parce qu'on a fini avec Benoît et Suzanne, avec un rythme qui était tellement effréné que Fanny, tous les jours, elle nous faisait un emploi du temps de collégien en disant,
Il faut
OK,
aller voir
donc
machin, il faut dire
de
ça.
9h30. Il faut valider les plans de tel temps, tel plan. Après, vous avez un Skype avec telle équipe pour parler de tel truc. Donc, ça veut dire que toi, avant, il faut que tu aies un quart d'heure pour préparer ce truc-là. Enfin, elle nous faisait vraiment un planning heure par heure de ce qu'on devait faire. Et ça, c'était hyper précieux parce que du coup, après, on a juste à faire les choses. C'est elle qui nous dit ce qu'on doit faire, on le fait. Et ça, c'était vraiment cool. J'appuie un peu là-dessus parce qu'en fait, très souvent, on met en avant les équipes artistiques, mais en fait, sans les équipes de prod qui, d'une part, vont chercher leur début, puis après supervise toute la fabrication et gère les conflits politiques et machin et tout. Enfin, en fait, il n'y a rien qui se fait. Hein, donc, et c'était la première fois que j'étais aussi proche des équipes de prod sur un aussi gros projet. Et en fait, une fois que tu as le nez dedans, tu te rends compte à quel point c'est important et à quel point c'est compliqué aussi comme poste, quoi.
Bah, moi, il y a un truc où j'ai tiqué dans ce que tu as dit avant. Tu as dit il y avait des parties en 2D, des parties en 3D. Comment ça s'est fait ce truc-là
Ouais.
qu'est-ce qui était en 3D dedans, dans le film?
Je sais pas, est-ce que toi tu as réussi à savoir ce qui était fait en 3D parce que tu en as parlé dans ta vidéo sur Mar dans ton interview de Mars Express?
Ben là, je crois pas avoir remarqué de truc
Ah
en
ouais, c'est
particulier
vrai?
où je me suis dit que
Trop bien.
ça ressortait vachement et tout. Je me suis dit c'est de la 2D super propre. Donc peut-être que des fois il y avait de la 3D super
Ouais.
propre que j'ai pas discerné, je sais pas.
Il y a eu des mélanges, mais après on a fait en sorte que justement la 3D elle se voit quasiment pas.
Ouais.
Dans les trucs qui ont été faits en 3D, il y a décor en 3D, il y a celui de l'opéra,
OK.
parce que vu que c'est une pièce circulaire avec des rangées de sièges qui créent des décalages, vu que c'est des niveaux qui s'agrandissent au fur et à mesure, à
Ça devient
dessiner en décor,
impossible.
ça aurait été un enfer. Donc
Ouais.
en fait, on s'est dit, on fait une base 3D pour ça. Et autre décor en 3D, j'espère que j'oublie pas de trucs, mais il y avait toute la scène finale, sans rien spoiler, avec le palais prison au milieu et la forêt de cailloux tout autour. Où là, c'est pareil, on s'était dit, au début, on s'était dit, la forêt de cailloux, on va la faire en 3D, comme ça, vu que c'est des formes un peu random, il suffit d'en modéliser 3, 4 et puis de les décliner à l'infini. Sauf qu'en fait, on n'arrivait pas à avoir en 3D un rendu qui marchait aussi bien que ce qu'on voulait, quoi. On sentait toujours un peu la 3D dans la perspective. Donc en fait, ça a servi de référence pour les décorateurs qui les redessinaient par-dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'il y avait quand même déjà toute la perspective qui était donnée, toute la profondeur, donc le rétrécissement des blocs dans la perspective et tout. Tout ça était déjà, enfin, les indications étaient déjà là, quoi. Donc en fait, ça a quand même fait gagner énormément de temps. Et après, il y a toute la séquence des étoiles. Les étoiles étaient faites en 3D sur Blender aussi.
OK.
Mais là, c'est plus parce que c'est de l'animation de décor et qu'on s'était dit, si on fait juste une banque d'étoiles en se disant, oui, bon, on verra au compo ce que ça donne, on va se retrouver avec un enfer pas possible. Donc, on a fait en sorte que ce soit animé avant sur Blender. Et on a bien fait parce que ça a quand même été un enfer au compo. Il y avait d'autres soucis d'intégration à gérer qu'on n'avait pas anticipé. Donc, ça a quand même été bien compliqué. Mais.
Et ça, je suis curieux de savoir un peu, parce que là, je suis en train de faire des tests et tout ça, mais dans l'idée, je voudrais avoir des décors 3D avec un perso 2D dans mon court-métrage. Et je me demande un peu, justement, ces trucs de compo, j'ai l'impression que ça va être peut-être un bordel à faire. Quel problème il y avait, par exemple, pour que le décor 3D soit intégré à la 2D? C'est des trucs de superposition, des trucs vraiment de rendu? C'était quoi un peu les soucis?
Bah, pour les étoiles, c'était pas très compliqué parce qu'en gros, c'était des éléments qui étaient plats et qui devaient bouger d'une certaine vitesse. Donc en gros, c'était assez simple. Ça donnait même un effet comment after, mais sauf que vu que c'était fait en 3D, on gérait mieux la vitesse des mouvements des étoiles et tout ça. Mais autrement, je sais pas, hein, c'est pas facile. Il y a quelques mouvements de caméra animée qui ont été faits en 3D. Je sais pas si tu te souviens du passage dans le film où les filles, Elles sont sur le dos de Selma et elles arrivent justement au milieu de ce qu'on appelait la forêt de pierre. Donc, enfin voilà, elles descendent parce qu'il n'y a plus de vent. Et puis à ce moment-là, ils cassent un coin du deltaplane et puis ils font des va-et-vient entre les blocs. Et là, il y a un ou deux plans qui sont faits en 3D. Mais même ça, en fait, moi, il y avait des trucs en 3D. Déjà, en fait, la 3D, elle crée des petits artefacts, souvent un peu dégueux, qui donnent un truc pas très, très beau. Donc, ça veut dire que moi, ça faisait aussi partie de mes missions. Je récupérais ça dans TV Paint et je renettoyais tout, voire il y avait des trucs que je réanimais. Ce qui fait que ça brouille un peu la piste de qu'est-ce qui a été fait en 2D, qu'est-ce qui a été fait en 3D. Mais voilà, c'est très peu de plans et c'est des plans qui passent assez vite, quoi, souvent. J'ai l'impression que sur des plans de vitesse, ça peut marcher. Si c'est sur des trucs trop lents, tu sens trop le volume, quoi. Et d'ailleurs, en fait, par rapport à ça, il y a un autre truc qui a été fait en 3D que j'ai oublié de dire. C'est toute la tornade qui tourne quand ils sont quand enfin voilà tout ce truc de gros nuages qui tournent autour, ça c'est entièrement de la 3D. Et heureusement que c'était entièrement de la 3D parce que ça aurait été un enfer de justesse d'animation pour un truc qui est juste un élément du décor qui du coup doit être présent mais n'est pas le centre de l'action quoi. Donc il y a des plans où ça a été animé à la main. Mais sinon, ouais, ça a été beaucoup de la 3D. Pareil, beaucoup de renettoyage sur TV Paint pour éviter les intersections, les moments où les lignes viennent face caméra et que ça crée des clignotements, là. Mais voilà, en gros,
Donc
ça a été fait en
c'est
3D.
vraiment de réussir à brouiller un peu le truc de parce que faudrait peut-être que je le revoie là, je l'ai vu à Annecy, donc ça commence à faire quelques mois.
Ouais.
Mais en tout cas, en le voyant, j'ai pas vu même de
Bon,
mouvements
c'est
qui
cool.
paraissaient trop fluides par rapport à de l'anime 2D, tu vois, des trucs comme ça. Souvent, c'est ça
Ouais.
qui peut un peu dire que c'est de la 3D, c'est d'un coup, t'as un truc parfait
Ouais.
en pas de 1 et tout qui débarque et tu te dis, ah, là, tu sens bien, ou les
Ouais.
véhicules qui bougent trop, les trucs comme ça, quoi. Mais là, franchement,
Ouais,
j'ai
carrément,
pas
ouais.
senti.
Mais ça, c'est des trucs. Je pense que Benoît, il m'attendait un peu aussi sur ce truc-là, et lui aussi est très pointu et très chiant avec ça. C'est qu'on adore toutes ces questions techniques, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est 3D? Qu'est-ce qui fait que ça strobe ou que ça strobe pas? Ça, c'est un truc. Les questions de strobe, c'est une obsession, moi, dans ma tête. Enfin, tu vois, le fait que tu aies un mouvement de caméra qui bouge et que du coup, ça
Ouais,
fasse
c'est ça,
trembler
et
les
que ça fasse des
personnages.
saccades.
Et donc, du coup, il y a vraiment très, très peu de plans à la fin dans le film qui strobent. Et ça, j'en suis hyper fier. Alors que c'était très technique et très débile. Mais voilà, c'est le genre de trucs sur lesquels tous les deux on est très pointus, on sait qu'il y a des manières de faire, on sait comment éviter ces trucs-là et tout. Donc même pour l'utilisation de la 3D, quoi, le fait de redessiner des trucs, de réanimer des morceaux, enfin voilà, ça faisait partie des choses qui nous intéressaient pour avoir un film qui soit le plus uniforme possible, quoi. Le Deltaplane aussi a été modélisé en 3D, et du coup il y a quelques plans où en fait souvent il servait de référence juste pour les animateurs. Donner une vitesse, une amplitude et tout. Mais il y a quelques plans où il a été gardé tel quel en 3D et ouais, ça se sent absolument pas, je trouve.
Ok, bah je le reverrai pour essayer de voir si j'arrive à
Ouais.
déceler, mais à mon avis non, parce que souvent ça me saute aux yeux, mais là non. Donc c'est ouais, bien joué.
Cool.
Et peut-être pour conclure, souvent je pose un peu la même question, mais comment tu as vécu ça d'être pendant un certain temps justement sur cette prod-là en tant qu'assistant réel, le fait d'avoir des tonnes de choses en tête tout le temps à gérer, est-ce que c'est un gros stress, est-ce que c'était un crescendo de responsabilités ou pas, enfin un peu tous ces trucs-là de séparation vie pro vie perso, le temps libre, les trucs comme ça quoi. Grosse question, mais voilà.
Ouais, grosse question. Eh ben, honnêtement, c'était un peu ambigu dans ma tête parce que ça a été quand même très très dur. Moi, il y a eu plein de moments où je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis lancé. Et vraiment, je l'ai à beaucoup de moments quand même pas très bien vécu, mais je suis trop content de l'avoir fait. Et en fait, je crois que je le savais en commençant. De me dire, je sais que ça va être intense parce que, comme je disais, exigence technique de Benoît, film très ambitieux, plein de mouvements de caméra, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps pour le faire. Assez compliqué, Mais en même temps, je crois que j'avais envie de passer par là, quoi. Et je crois que j'avais, si j'avais pas bossé dessus, enfin si j'avais refusé le poste et que j'avais pas été l'assistant réel de Benoît, j'aurais regretté de dingue. Et donc du coup, je suis quand même trop content d'y être allé. Et pour dire à quel point on oublie vite les trucs, j'avais terminé ça en me disant plus jamais l'assistant réel. Et là, j'ai signé pour l'assistant réel d'un autre long métrage où je vais pas faire tout le film, mais je fais que la pré-prod. Mais en fait, je crois que ça a été assez violent, mais qu'avec le temps qui passe, je digère les choses et surtout je réalise tout ce que ça m'a appris. Et ça, c'est à ce niveau-là que c'est quand même vraiment hyper riche. Et puis je crois que ça m'intéressait aussi d'essayer avec d'autres réals, justement parce qu'on disait ça dépend vachement des besoins des réals. Et là, donc, du coup, je vais travailler sur le film de Louis Clichy qui s'appelle Le Corset, qui va commencer prochainement, là. Et donc, c'est assez marrant parce que c'est pas du tout le même profil que Benoît, c'est pas du tout les mêmes exigences aux mêmes endroits, pas les mêmes besoins. C'est un univers qui est très réaliste, qui se passe en France dans une ferme. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout les mêmes choses à préparer pour les équipes d'anime et tout. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de le faire aussi pour voir différents univers quoi, différentes manières de se travailler. Mais non, expérience de dingue quand même, c'était trop bien.
Et surtout, expérience où tu ne te serais pas spécialement attendu à faire ça comme tu disais au début. Donc, c'est un des trucs aussi qui fait que les parcours sont toujours un peu, je vais pas dire chaotique parce que c'est pas le bordel, mais je veux dire, c'est des trucs surprenants de en fait, on se retrouve à faire ça
Ouais.
et on rencontre machin qui va nous dire, tu veux pas faire ce truc-là. C'est que des trucs où on s'attend pas du tout à arriver là où on est finalement, je trouve, en
Ouais.
tout cas dans les parcours que j'entends souvent.
Ouais, carrément. Et puis en fait, ouais, c'est ça, on se découvre à d'autres endroits. Enfin, en fait, moi, on m'aurait, enfin, je sais pas, quand j'étais au collège ou au lycée, on m'aurait dit que plus tard, j'allais prendre du plaisir à remplir des tableaux, à préparer des docs pour des équipes de gens qui vont dessiner. J'y aurais pas cru, quoi. Alors que là, en vrai, tout ce travail de gestion, d'optimisation du planning, de optimisation technique de tout ça, j'ai trouvé ça hyper agréable et hyper stimulant. Donc ouais, c'est cool de se découvrir à d'autres endroits. Je pense que je me suis aussi rendu compte que, notamment avec Bye Bye Elida, je l'avais commencé, donc le moyen métrage que j'avais fait avant, je l'ai commencé sans producteur, je l'ai fini avec les producteurs, Nova Nima. Mais en fait, sur tout le début de la fabrication, en fait, je faisais moi-même le producteur. C'est-à-dire, je calculais moi-même mes quotas, je faisais mon suivi de fabrication, je faisais tout ça. Donc, je me suis rendu compte que même si j'avais jamais fait un boulot de prod, en vrai, je savais quelles étaient les grosses étapes qu'il fallait avoir à ce niveau-là, quoi. Donc,
Et justement, t'as d'autres projets de courts-métrages, d'histoires que t'écris, etc., qui se font un petit peu toujours en parallèle, peut-être?
ouais, alors il y a plein de trucs, parce que du coup, ça, il y avait plein de projets qui ont été mis en pause pendant cette période-là, ou alors qui ont redémarré après. En gros, pour les projets en cours, bah, du coup, il y a le projet avec Jean Boutor qui s'appelle La Quatrième Planète, où en gros, c'est un projet qu'on avait développé de science-fiction qui parle aussi d'exode vers Mars, qui raconte pas la même histoire, mais voilà, c'est un terrain science-fiction commune. Donc là, c'est un format de 13 épisodes de 26 minutes. Donc là, on a fini l'écriture des arches narratives, on a remis à jour la bibliographie. Et voilà, on commence les discussions avec les chaînes pour essayer de voir si ça
Pour le
peut se
fabriquer,
faire,
quoi.
si combien ça coûte. Voilà, c'est ça, toutes ces questions-là, qui sont moins de mon ressort à moi, quoi, qui sont plus des ressorts côté prod. J'ai lancé avec deux copains un projet de jeu vidéo. Alors, La Quatrième Planète, c'est une série et un jeu vidéo, donc déjà, ça veut dire qu'il y a déjà ce jeu vidéo. Il y a la série et le jeu vidéo. Plus, à côté de ça, avec deux copains, on a lancé un petit projet de jeu indé pour lequel on a eu l'aide à l'écriture du CNC cet été, donc c'est pareil, ça, on est en écriture de ce projet-là. Et après, pour mes projets perso, j'ai l'impression que c'est une autre catégorie dans ma tête, parce que, en tout cas pour la partie projets expérimentaux que je faisais avant, J'ai l'impression que le fait d'être passé à travers Sirocco m'a amené d'autres choses et j'ai plus les mêmes envies narratives, j'ai plus les mêmes envies graphiques. J'ai envie d'aller un peu plus loin graphiquement. J'ai l'impression aussi que le fait d'avoir fait un film de 35 minutes quasi tout seul, je m'étais quand même un peu essoufflé. En tout cas, j'avais terminé ce film-là en me disant, je ne vais pas passer ma vie à faire des films de 35 minutes sans être payé. Ça trouve ses limites, quoi. Donc, je sais pas trop. Là, je réfléchis. J'ai envie aussi de faire des films pour d'autres publics. Donc, même avec Benoît, on réfléchit à refaire des films ensemble et essayer de refaire des films pour les enfants qu'on coécrirait. Donc, voilà, on parle de ça. Et puis là, j'ai des envies de BD aussi. Donc, je fais des tests de
Oui,
bande
il
dessinée.
y
Voilà,
a plein de choses alors finalement. Ouais.
c'est ça. C'est foisonnant. Je cherche plein de choses, quoi. Voilà.
Ok, bah, de mon côté en tout cas, j'ai discuté de tout ce que je voulais aborder. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça.
Bah, avec grand plaisir, bonne continuation à toi, et puis j'espère que tu auras l'occasion de le revoir et
Ouais, j'espère aussi, je pense que
de le re-regarder d'une autre manière.
je le reverrai peut-être dès qu'il sort, quand il sort au ciné, je pense que je repasserai le voir justement pour voir un petit peu avec toutes les infos que j'ai en tête maintenant, le voir un
Trop
peu sous un
bien.
autre œil, quoi.